Frédéric Mistral, Mireille, chant sixième. La sorcière. À l'aube du jour, trois porchers trouvent Vincent étendu dans le désert de la Croix et baigné dans son sang. Ils apportent dans leurs bras au mas des Micocouls. Digression. Appel du poète à ses amis, les poètes de Provence. Douleur de Mireille. On porte Vincent à l'antre des fées, repère des esprits de la nuit et habitation de la sorcière Tavenne, charmeuse de tout mot. Les fées. Mireille accompagne son amant dans les excavations de la montagne. La mandragore. Les apparitions de la caverne. Les follets, l'esprit fantastique, la lavandière du Ventour. Récit de la sorcière. La messe des morts, le sabbat, la garamode, le grippé, la bambarouche, le cauchemar, les escarinches, les dracs, le chien de Cambale, le baron Castillon, l'agneau noir, la chèvre d'or, Tavenne charme la blessure de Vincent, exaltation et prophétie de la sorcière. À l'aube claire se marie le chant des clercs de bec fin, la terre énamourée attend le soleil, vêtue de fraîcheur et d'aurore. Ainsi la jeune fille qui se fait enlever, vêtue de la plus belle de ses robes, attend le jouvenceau qui lui a dit « Partons en hâte !» Dans la Croix marchaient trois hommes, trois porchers, retournant du marché de Saint-Chamas-le-Riche. Ils venaient de vendre leur troupeau, et tout en faisant la causerie, sur l'épaule à l'accoutumée, ils portaient leur argent enveloppé dans leur manteau. Quand tout à coup, « Silence, camarade !» fait l'un d'eux. Depuis un instant, il me semble ouïr soupirer dans les bruyères. « Bah !» dirent les autres, « c'est la cloche, de Saint-Martin, ou de Maussane, ou bien peut-être la Tramontane, qui agite en passant les touffes de chêne-nain. » À peine achevait-il, des genêts sur une plainte qui les arrête, une plainte si dolente qu'elle navrait le cœur. « Jésus-Maria, » dirent-ils tous, « il y a de l'étrange. » Et ils firent un signe de croix, et doucement, doucement, s'acheminèrent là d'où les plaintes venaient de plus en plus fortes. Oh, quel spectacle dans les herbes, sur les cailloux, le visage renversé par terre. Vincent était gisant, le sol foulé autour de lui, les brins d'osier dispersés çà et là, sa chemise en lambeaux, et l'herbe ensanglantée, et sa poitrine ouverte. Abandonné dans les champs avec les étoiles pour compagne, là le pauvre jeune homme avait passé la nuit, et l'aube humide et lumineuse, en frappant sur ses paupières, dans ses veines mourantes, ressuscita la vie et lui ouvrit les yeux. Et les trois hommes empressés quittèrent aussitôt le chemin, et courbés tous les trois, lui firent un berceau de leur manteau qu'ils déployèrent. Puis entre tous le prirent dans leurs bras et l'apportèrent au mas des Micocouls, qui était la plus proche habitation. Ô doux amis de ma jeunesse, vaillants poètes de Provence, qui écoutez, attentifs mes chansons du temps passé, toi qui sais, ô Roumanille, tresser dans tes harmonies et les pleurs du peuple et les rires des jeunes filles et les fleurs du printemps, toi qui des bois et des rivières cherches le sombre et le frais pour ton cœur consumé de rêves d'amour, fier Aubanel, et par les œuvres que tu laisses, toi, Crousillat, qui à la Touloubre fait plus de renommée qu'elle n'en recouvre, de son Nostradamus le sombre astrologue. Et toi aussi, Mathieu Anselme, qui sous les berceaux des treilles, regarde pensif les jeunes filles attrayantes. Et toi, cher Paul, ô fin railleur, et toi, le pauvre paysan, Tavant, qui mêle ton humble chanson à celle des grillons bruns qui examinent ton noyau. Et toi aussi, qui dans le débordement de la Durance, trempe encore tes pensées, toi qui chauffes le français à nos soleils, mon Adolphe Dumas, grandis lorsqu'ensuite Mireille s'est lancée, loin de son mas, neuve et étonnée, toi qui l'as dans Paris menée par la main, et toi enfin, dont un vent de feu agite, emporte et fouette l'âme, garcin, au fils ardent du maréchal d'Alens, vers le fruit beau et mûr, où vous tous, à mesure que je gravis ma hauteur, aérez mon chemin de votre sainte haleine. Maître Ramon, bonjour, dirent les porchers en arrivant. Nous avons trouvé ce pauvre jeune homme par là-bas dans la lande. Cherchez des loques de toile fine, car il porte à la poitrine une bien large blessure. Alors, sur la table de pierre, il dépose Vincent. Au bruit du fatal événement, Mireille accourt éperdue. Elle venait du jardin et tenait sur la hanche son panier plein de légumes. Accourent tous les laboureurs. De Mireille, les bras se lèvent. Mère de Dieu! Puis s'écrie-t-elle d'une voix aiguë, et son panier tombe. Vincent! Que t'a-t-on fait, hélas, pour être ainsi couvert de sang? De son bien-aimé, elle relève alors doucement la tête et longuement, le regarde muette, consternée, comme pétrifiée par l'horreur. Deux larmes grosses et rapides s'inondaient en même temps la légère éminence de son sein. De l'amoureuse jeune fille, Vincent reconnut la main, et d'une voix mourante, « Oh, dit-il, ayez pitié, j'ai besoin qu'il m'accompagne, le bon Dieu, car je suis bien à plaindre. Laisse humecter ta bouche, avec un peu d'agriota. Oui, bois-le vite, car cela ranime, reprit la jouvencelle. Et prompte, elle prit le flacon, et goutte à goutte, en lui parlant, le faisait boire, et lui ôtait le mal-être. De pareils malheurs, Dieu vous délivre. Vincent commença de nouveau, et vous paie tous vos soins. En refendant un sion d'osier, je le pressai sur ma poitrine, quand le fer m'échappe et me frappe au sein. Il ne voulut pas dire que pour elle, il s'était battu comme une grêle, mais sa parole d'elle-même revenait vers l'amour comme la mouche au miel. La douleur, dit-il, de votre visage, plus que ma plaie m'est amère. La jolie corbeille commencée par nous, il faut donc, paraît-il, qu'elle reste inachevée et que la tresse s'en arrache. Pour ma part, Mireille, je sais que, de votre amour, j'aurais voulu la voir s'emplir. Mais tenez-vous là, que je vous vois, vos yeux doux, et que j'y boive la vie encore un peu. Je ne vous demande rien de plus. Je vous demande, si vous pouviez faire quelque chose pour le vanier, j'ai là-bas mon pauvre vieux père, qui est brisé par l'âge et mort pour le travail. Mireille se désolait. Cependant, elle lave sa blessure, et sur l'une des charpies déchire le velours, d'autres empressés s'élancent vers l'alpine pour chercher les herbes salutaires. Mais aussitôt Jeanne Marie. Au trou des fées, au trou des fées, portez-le. Plus la plaie est dangereuse, plus la sorcière est puissante. Allons au trou des fées dans le vallon d'enfer, quatre le portent dans les remparts de roches qui forment la chaîne des Baux, en un lieu que la salamandre hante, et que le vol tournoyant les sacres indique. Entre les touffes des romarins, à fleurs de roche, un trou se cache, dans ses profondeurs depuis que le saint Angélus, en l'honneur de la Vierge, frappe le bronze clair des basiliques, dans ses profondeurs les antiques fées, pour jamais du soleil ont fui la splendeur. Esprit léger, mystérieux, entre la forme et la matière, elles erraient au milieu d'un limpide crépuscule. Dieu les avait créées demi-terrestres et féminines, afin qu'elles fussent, pour ainsi dire, l'âme visible des campagnes, et afin d'apprivoiser la sauvagerie des premiers hommes. Mais si beaux étaient les fils des hommes que pour eux s'enflammèrent les fées, et insensés, au lieu d'élever les mortels vers les célestes espaces, passionnés de nos passions, dans notre obscur destin, comme des oiseaux fascinés, de leur hauteur elles tombèrent. Dans la gorge étroite et raboteuse de la caverne sombre, les porteurs cependant avaient laissé Vincent se couler par glissade. Avec lui, dans l'obscur sentier ne s'aventura que Mireille, recommandant son âme à Dieu, chemin faisant. Au fond du puits qui les amène, dans une grotte vaste et froide, ils se trouvèrent, et seul au milieu et voilé d'un nuage de rêve, Tavenne, la sorcière, accroupie, tenait un épi de brome, et profondément triste en le considérant. Pauvre brin d'herbe officieux, Les gens te nomment blé du diable, grommelait-elle, et tu es un des signes de Dieu. Alors, Mireille la salue, et à peine commence-t-elle à dire, émue, le motif pour lequel ils viennent, la sorcière, sans lever la tête, je le savais. Ensuite, sa voix chevrotante de nouveau s'adressa au brome. Pauvre fleur du gazon, ce sont tes feuilles et tes germes que les troupeaux toute l'année broutent, et pauvrette, plus ils te foulent, plus tes épis se multiplient, et tu revais de verdure le nord comme le midi. Là, ta veine fit une pause. Dans une coquille d'escargot, une petite lumière brûlait, éclairant de reflets rougeâtres la paroi humide de la roche. Sur la fourchette d'un bâton était juchée une corneille, et côte à côte une poule blanche, un crible pendait au mur. « Qui que vous soyez, dit la sorcière subitement comme ivre, et que m'importe ? La foi marche les yeux fermés, la charité porte un bandeau, et elle ne s'écarte pas de l'arrêt. Vanier de Valabrègue, te sens-tu foi ? Je me sens. Suis mon sillon. » Empressé comme une louve, qui de sa queue se bat les flancs, par un trou disparaît la sorcière. Stupéfait, le Valabrégant et Mireille vont après elle. Devant la vieille, on entendait, dans l'horrible brume, voleter la corneille et la poule glousser. Descendez vite, il est déjà l'heure de se ceindre de mandragore. Et vite, en rampant et en se traînant, couple ne s'écartant point l'un de l'autre, ils vont à la voie qui les commande. Dans une grotte plus grande encore, venait s'élargir l'infernal couloir. Voilà, leur dit Taven d'un signe. Ô plante sainte de mon Seigneur, Nostradamus, rameau d'or, bâton de Saint-Joseph et verge magique de Moïse, s'écrie-t-elle, et de l'herbe que je vous dis, craintive, elle couronna les pousses avec son chapelet qu'elle y déposa à genoux. Puis, se levant, c'est l'heure de vous ceindre de mandragore. De la plante venue dans la fente du roc, elle cueille 3 jets, s'en couronne elle-même, en couronne le jeune homme et la jeune fille. En avant toujours, et elle s'engouffre, ardente plus que jamais, dans les cavités sombres. Avec de la lumière sur le dos pour éclairer l'obscurité, une troupe d'escabeaux chemine devant elle. Jeunes gens, tout chemin glorieux à sa traversée de purgatoire. Ça, courage, du sabbat nous allons maintenant, aïe, 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 franchir les épouvantes. Elle n'avait pas clos encore la bouche, un vent violent leur cingle le visage et leur coupe brusquement le souffle. Prosternons-nous, défolés, voici le triomphe. Tel qu'un grain gonflé de grêle, sous les cryptes passent innombrables les saints vagabonds glapissants, tourbillonnants. Ils passent, et baignés d'une sueur froide, les 3 mortels sentent leurs tempes éventées, fouettées par l'aile des fantômes, nues et froides comme un glaçon. « Allez plus loin battre les ténèbres !» Taven cria. « Bande bourrue ! Allez, abatteurs de moissons, allez, ou rangez-vous ! Oh, les vilains, les fanfarons ! Et dans le bien que nous pouvons faire, dire ensuite qu'il nous faut employer telle engeance, car oui, de même que le médecin souvent tire le bon du pire, par la vertu des sortilèges, nous forçons, nous, le mal, à engendrer le bien, car nous sommes les sorcières, et nulle chose à notre vue n'est cachée, et où le vulgaire voit une pierre, un fouet, une maladie, une perche, nous discernons, nous, une force, qui dans son écorce se tourmente, ainsi que sous le marc d'un vin nouveau qui bout, perce la cuve, la boisson, en jaillira toute bouillante, découvre, si tu peux, la clé de Salomon. Parle à la pierre dans sa langue, et la montagne, à ta parole, dévalera dans la vallée. Et il descendait toujours dans les cavernes de la montagne. Une petite voix maligne, comme un cri de chardonneret, leur fait alors. « Oi, oi, la commère Taven !»« Tourne le rouet, ma tante Jeanne, tourne le rouet, et puis dévide, la nuit, le jour, son fil de laine, et elle croit filer de la laine et ne file que du foin. Ça, grand-mère, tourne le rouet, et puis en l'air de rire et de rire. Ainsi hennit un poulain sevré. Quelle est cette voix qui parle et qui tantôt rit et tantôt chante? Demande Mireille en tremblant. Oi, oi, en répétant son rire habituel. Dit la voix enfantine, quelle est cette si jolie fille? Permets, petit minois, que je soulève ton fichu. Permets que je le soulève. Y a-t-il des noisettes dessous ou des grenades? Et la pauvre enfant des champs, aïe, allait-elle crier, mais Tavaine aussitôt, silence, n'aie pas peur, c'est là un lutin, bon seulement à faire des niches, mais c'est cet écervelé d'esprit fantastique, dans ses bons moments, il balayera ta cuisine, triplera les œufs de tes poules, attisera le sarment, et tournera ton rôti. Mais qu'il lui prenne un caprice, tu peux dire adieu. Quel brouillon dans ta marmite, il jette un carteron de sel, il empêche ton feu de s'allumer. Vas-tu te coucher? Il souffle ta lampe. Veux-tu aller aux vêpres, à Saint-Ophime? Il cache ou fane ta parure des dimanches. Tiens, tiens, vieux escroc, rive tes pointes. L'entendez-vous, la poulie malgraissée? Lui réplique aussitôt l'espiègle. Oui, olive desséchée, la nuit quand dorment les fillettes, je tire doucement leur couverture, je les épie nues et rebondis, et qui, folle de peur, se blottissent en priant. Je vois leurs deux coupelles qui vont et viennent palpitantes. Je vois, et l'esprit s'en allait au loin, avec son rire sous les grottes, les sorcelleries firent trêve, et dans les ombres et le silence, on entendait dégoutter sur le sol cristallin, dégoutter les filtrations des voûtes, et cela seul, d'intervalle en intervalle. Et voici par là-bas dans l'immensité noire, voici qu'une grande forme blanche, qui sur un banc de roche était assise, se leva droite, un bras sur la hanche. Vincent, comme un quartier de pierre immobile de terreur, et si en ce lieu même avait pu être un précipice d'épouvante, Mireille s'y jetait d'un seul élan. « Que veux-tu ? » s'écria Tavaine, long escogriffe, par ces balancements de tête pareils à ceux d'un peuplier. Médrille, dit-elle ensuite au couple qui a la mort dans les eaux. Vous ne connaissez pas la lavandière? Sur le mont Ventoux qui est son siège, lorsqu'il la voit, d'en bas, pour un long nuage blanc, les gens la prennent. Mais, ô berger, vite, vite que vos brebis rentrent au parc. La lavandière de malheur amasse autour d'elle les nuées errantes. Et quand il en est assez pour la lessive, sur le monceau, les bras retroussés, et avec fureur, elle frappe et refrappe, à broc, elle en exprime en les tordant, et la verse et la flamme, et sur la mer qui monte et mugit, à la garde de Notre-Dame, les pâles nautonniers recommandent leur proue. Et le bouvier, de vers l'étable, chasse. Un épouvantable tumulte lui arrête de rechef la parole entre les dents. Miaulement de chattemite, branlement de hoquet, épiolement et paroles à moitié dites, et auxquelles le diable seul entend. Djinn, djinn, poun, poun, qui frappe ainsi sur les chaudières fantastiques. Et des déchirements et des éclats de rire et des épreintes comme celles des femmes abîmées dans les douleurs de leur couche, puis des bâillements, puis des huées, et des criailleries, et des gémissements aigus. Tendez la main que je vous saisisse, et prenez garde qu'elle ne s'échappe la couronne magique qui vous ceint le front. Et dans leurs jambes, alors, se presse pêle-mêle quelque chose, comme un troupeau de porcs qui s'ébroue. L'un crie, l'un aboie, l'un grogne, l'un souffle. Sous un linceul de neige, quand la nature dort, par une nuit venteuse et claire, quand les chasseurs à la fouée secouent les ronceraies tout le long des ruisseaux, ainsi, moineaux et chouettes éveillés en sursaut dans leur couche, effarouchés partent par bandes, et avec un bruit de soufflet de forge s'engouffrent dans le filet. Mais alors, la charmeresse, Hue, sauterelle de mauvaise vie! Harry, malheur à vous, loin de moi! Et chassant la horde impure, avec son crible, dans les ténèbres, elle jetait des cercles, des figures, des raies lumineuses et couleurs de kermesse. Clapissez-vous dans vos cavernes, artisans de mal, qui vous dérange? Aux aiguillons de feu qui piquent vos chairs, ne sentez-vous donc pas que sur l'alpine le soleil roux brille encore? Aux angles de rochers, appendez-vous. Pour les chauves-souris, il faisait encore trop clair. Et il déguerpissait de toutes parts, et les bruits peu à peu s'éteignaient. Il faut vous dire, au couple, dit alors Tavennes, que des fantômes, ce lieu est le repère. Tant que, sur les jachères jaunes, le jour laisse tomber sa manne, mais dès que l'ombre étend son drap de mort, vers le temps où la vieille irritée lance à février sa ruade, dans les églises désertes et fermées à triple tour de clé, n'allez pas, femmes attardées, le front pendant sur une chaise restée endormie. Dans les ténèbres, vous pourriez voir les dalles se soulever tout alentour, et les luminaires s'allumer, et cousus dans leur suaire, les morts, un à un, allaient se mettre à genoux. Un prêtre pâle comme eux dira la messe et l'évangile, et les cloches d'elles-mêmes en branle pleuraient des glas avec de longs soupirs. Parlez, parlez-en aux effrayés, dans les églises, pour boire l'huile des lampes, quand l'hiver, elles descendent des clochers, demandez-leur si je vous mens, et si le clerc qui sert l'office, qui dans le calice verse le vin, n'est pas le seul vivant à la cérémonie. Vers le temps où la vieille irritée lance à février sa ruade, pâtre, si vous ne voulez ébouriffer de peur, restez 7 ans les jambes raides, charmés, là où vous êtes, avec vos brebis. Rentrez moins tard dans vos clés, pâtre. Le trou des fées a lâché tout son vol, et dans la croix à 4 pattes, où d'une volée se rend tout ce qui fait le pacte, et par les sentiers tortueux, les magiciens de Varigoul et les sorciers de Fanfarigoul vont venir dans l'étain boire à la tasse d'or en faisant la farandole. Voyez comment dansent les garrigues, frémissantes du nombril, déjà la garamode attend le grippé. Fi, guenip endiablé. Grippé, mord la charogne et arrache-lui les boyaux à coups de griffes. Ils disparaissent, les voilà encore. Horreur et bacchanale. Celle qui là-bas décampe, terre à terre, dans les titins mâles, comme un voleur nocturne qui fuit en se baissant, c'est la bambarouche refrognée. Entre ses longues serres et sur sa tête cornue, elle emporte les enfantelets nus et pleurants. Par là, voyez-vous le cauchemar? Par le tuyau des cheminées, il descend furtivement sur la poitrine moite de l'endormi qui se renverse muet. Il s'y accroupit, l'oppresse, comme une tour, et enchevêtre dans son esprit des songes qui font horreur et des rêves douloureux. Entendez-vous arracher les portes de leurs gonds? Les escarinches courent la campagne, courent la campagne de Marmale, le Barban dans les Landes, ils forment une brume, les Cévennes même, avec leur ventre de salamandre, les Dracs accourent par douzaines, et en passant patatras, ils arrachent la toiture des fermes. Quel vacarme! Ô lune! Ô lune! Quelle malencontre te courrousse! Pour descendre ainsi rouge et large sur les beaux, prends garde au chien qui aboie, ô lune folle! S'il te happe, il t'engoulera comme un gâteau, car le chien qui te guette est le chien de Cambale. Mais qui branle ainsi les yeuses? Aïe, elles sont tordues comme des fougères! Et des feux Saint-Elme sautant, tourbillonnant, bondit la flamme tordue, et des piétinements et un bruit de clochette font retentir la croix stérile, le galop enragé du baron Castillon. Enrouée, haletante, suffoquant, s'était arrêtée la sorcière des Beaux. Mais soudain, « Couvrez-vous, » fit-elle du tablier, « couvrez l'oreille et les paupières. L'agneau noir nous appelle. » « Qui donc ? Cet agnolet qui belle ?» dit Vincent. Mais elle, sourde oreille et alerte, malheur ici à qui trébuche. Plus que le pas de la sambuc est périlleux le pas du noir cornu. Ainsi que maintenant vous venez de l'entendre, il a un accent doucereux, un tendre bêlement qui vous attire à la descente. Ô chrétiens imprudents qui se retournent au bruit, il fait luire l'empire d'Hérode, l'or de Juda, et indique la place où la chèvre d'or fut par les Sarrasins enfouie. Jusqu'à leur mort, ils traient la vache tant qu'ils veulent, mais à l'agonie lorsqu'ils râlent, qu'ensuite ils fassent demander le sacrement divin. Le noir entenois leur réplique par un orage de coups sur les côtes, et néanmoins, au temps où nous sommes tant mauvais, marqués par la morsure de tout vice, combien d'âmes sèches et affamées de gain. Hélas, qui mordent à son piège, et qui, à la chèvre d'or, font fumer leur encens. Là, le chant de la poule trois fois perça la brume. Dans la 13e grotte, à la fin des fins, enfant, nous voici arrivés, dit la vieille. Mireille et le vanier, sous une grande cheminée, virent 7 chats noirs se chauffant en l'âtre. Ils virent au milieu des 7 matous une marmite de fer à la crémaillère. Ils virent 2 dragons en forme de tison qui vomissaient à pleine gueule 2 flammes bleues au cul de la marmite. Pour cuisiner votre bouillie, vous employez ce bois, grand-mère? Oui, mon fils. Nulle bûchette ne brûle mieux, ce sont des ceps de vigne sauvages. Mais Vincent, hochant la tête, des ceps, cela vous plaît à dire, mais hâtons-nous car ce n'est point risible. Une grande table de porphyre au centre de la grotte épanouissait son large contour. Processionnellement et blanche, 1000 colonnes diaphanes, comme les glaçons qui pendent au toit, de là partent pour aller courir sous les racines des chênes et les fondements des mamelons, immenses galeries que les fées ont ouvertes. Portique majestueux qu'enveloppe une lueur nébuleuse et vague, merveilleux pêle-mêle de temples, de palais, de péristyles, de labyrinthes, comme n'entaillèrent ainsi ni Corinthe ni Babylone, et qu'un souffle de fée dissipe quand il lui plaît. Là errent les fées, pareilles à des rayons qui tremblotent, avec les chevaliers qu'elles enchantèrent jadis, elles continuent la vie d'amour dans les allées ombreuses de cette chartreuse tranquille. Mais silence, paix au couple qui s'enveloppe d'ombre. Déjà prête, l'enchanteresse, tantôt levée sur la tête, tantôt vers le sol baissée ses bras nus, sur la grande table de porphyre, tel que Laurent le Saint-Martyr était couché sans dire un mot, le vanier Vincent avec sa plaie au buste. Exalté, grandi par l'esprit qui la travaille, et d'un vent prophétique lui enfle la gorge, ta veine, dans la marmite qui déborde à gros bouillons, plonge soudain l'écumoire. Autour d'elle, les chats formaient le cercle. Vénérable, avec la mixture, la sorcière de la main gauche, et chaude la poitrine découverte de Vincent, et les yeux fixent, en charme, la douloureuse blessure en murmurant à voix basse. Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ ressuscitera. Triomphante comme aux forêts, la grande tigresse qui allonge après la chasse, un coup de griffe dans les flancs roux de sa tremblante victime, sur les viscères palpitants, ainsi la sorcière imprime alors 3 fois avec l'orteil le signe de la croix, et de sa bouche, désordonnément, la parole débonde et heurte au portail nuageux de l'avenir. Oui, il ressuscitera, je le crois. De la colline parmi les ronces et les cailloux, je le vois au lointain, qui monte avec son front saignant à grosses gouttes. Et dans les ronces et dans les pierres, il monte seul, sa croix l'accable. Où est pour l'essuyer, Véronique? Où est ce brave homme de sirène pour le relever lorsqu'il s'affaisse, avec leurs chevelures détressées, les maries plaintives? Où sont-elles? Personne. Et dans l'ombre et la poussière, là-bas, riches et pauvres le regardent monter et disent « Où va avec sa poutre sur l'épaule celui, là-haut qui sans cesse gravit? Sang de Caïn, âme charnelle, pour le porte-croix, Ils n'ont pitié, pas plus que s'ils voyaient dans la lande un chien lapidé par son maître. Ah, race de juifs qui mord avec fureur la main qui te nourrit, et courbée lèche celle qui t'éreinte de coups. Dans la moelle de tes vertèbres, tu le veux, descendront les frissons d'horreur. Et ce qui est pierre deviendra poussière, et de l'épi et de la gousse, un charbon amer va effrayer ta faim. Oh, que de lances! Oh, que de sabres! Sur quel monceau de cadavres vois-je bondir l'eau des ravins? Pacifie tes vagues, ô mer tempétueuse! Aïe, la barque antique de pierre, aux âpres roches où elle frappe, s'est brisée en éclats. Oh, voyez le maître pêcheur, à dominer le flot rebelle, dans une barque belle et neuve, il gagne le Rhône et rebondit parmi les vagues, avec la croix de Dieu plantée au timon. Ô divine arc-en-ciel, immense, éternelle et sublime clémence! Je vois une terre neuve, un soleil qui réjouit, des oliveuses en farandole devant les fruits qui pendent, et sur les gerbes d'or, les moissonneurs gisants, qui têtent le baril. Et dévoilé de ces nuages par les exemples si nombreux, Dieu est adoré dans son temple, et la sorcière des beaux, cela dit, du doigt montre aux deux enfants un chemin à l'extrémité duquel un filet de jour se glisse, menu, menu. Ils partent en hâte, la joue effarée et courbant la nuque, par souterrain, au trou de corde. Le beau couple aborde enfin, il remonte au soleil, recouvrant le rocher de ses ruines et de sa vieillesse. Montmajour, l'abbaye des moines, leur apparaît comme un songe. Ils s'embrassent et gagnent la jonchée.